Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. J'avais assisté il y a quelque temps à un séminaire dont le thème était rôle et attribution des états mentaux dans la construction du sens. Eh bien, ce fut le point de départ du projet de notre émission, émission qui a été enregistrée au Laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence, avec pour invité Maud Champagne-Lavaux. Elle va nous parler de la théorie de l'esprit. Mais qu'est-ce que la théorie de l'esprit ? Maud Champagne-Lavaux va bien sûr répondre à cette question, et bien mieux que moi. Mais on peut dire que la théorie de l'esprit nous permet de comprendre que les autres peuvent avoir des croyances différentes des nôtres. Elle est considérée comme un aspect clé du développement cognitif des individus. Elle joue un rôle important dans les interactions sociales, notre capacité à former des relations sociales significatives. Maud Champagne-Lavaux est docteur en sciences cognitives de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Après avoir occupé un poste de professeur adjoint en psychiatrie à l'Université de Montréal, elle est chercheure au CNRS, au laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence. Je vais lire une phrase que j'ai trouvée donc sur vos écrits. Une des préoccupations majeures pour les sciences cognitives ces dernières années est la recherche concernant le rôle de la théorie de l'esprit dans la construction du sens. Voilà une affirmation qui demande beaucoup d'explications. Peut-être que je vais répéter la phrase pour que nos auditeurs aient le temps de bien la comprendre. Une des préoccupations majeures pour les sciences cognitives ces dernières années est la recherche concernant le rôle de la théorie de l'esprit dans la construction du sens. Alors, pour commencer, Maud Champagne-Lavaux, est-ce que vous voudriez nous définir ce que sont les sciences cognitives ?
Alors, les sciences cognitives, on peut dire que ça regroupe différentes disciplines, on va dire, qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau pour différents domaines. Donc, ça peut être le fonctionnement du cerveau pour le langage, pour le raisonnement, pour le calcul, par exemple, ou la vision. Voilà, pour ces différents aspects-là. Donc, ça fait appel à plusieurs disciplines.
Est-ce que les processus mentaux font partie des sciences cognitives ?
Oui. Vous voulez dire rapporter par rapport à la théorie de l'esprit ?
Oui, tout à fait.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie.
Oui, oui.
Vous venez de dire que ça fait appel à beaucoup de disciplines pour montrer l'étendue très vaste de ce champ de recherche. On pourrait citer plusieurs choses comme l'informatique, beaucoup de choses, non ?
Oui, oui, la linguistique, les neurosciences.
Les neurosciences, oui.
La philosophie, puisqu'il y a des travaux dont on s'inspire, donc qui sont issus de la philosophie anglo-saxonne, donc la philosophie de l'esprit, la philosophie du langage, la psychologie, bien sûr, voilà, et quelquefois les mathématiques aussi.
J'ai lu les mathématiques essentiellement dans le sens où on fait des mathématiques pour la modélisation.
On arrive à
modéliser le... Ou c'est très difficile de modéliser.
Donc c'est vraiment pas mon domaine de compétence, mais il y a des gens effectivement qui travaillent sur les processus cognitifs en essayant de les modéliser, oui.
Alors j'ai cherché un petit peu l'origine de cette science-là et j'ai trouvé en 1956 qu'il y avait un groupe de chercheurs, un informaticien, Minsky, qui est connu, un mathématicien, Shannon, un linguiste, bien sûr, Chomsky, des psychologues, un neurobiologiste, deux neurobiologistes qui se sont réunis pour commencer à travailler sur, sur cette question-là. Voilà donc pour les sciences cognitives. Maintenant, on va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, j'ai parlé de théorie de l'esprit.
Oui.
C'est quoi la théorie de l'esprit ?
Donc, c'est cette capacité qu'on a à attribuer ce qu'on appelle des états mentaux aux autres. Donc, les états mentaux, on veut dire par là les intentions, des croyances, des connaissances, des désirs, etc. L'idée est que y a la réalité qui nous entoure et on va avoir des croyances, des connaissances ou des intentions par rapport à cette réalité. Donc moi, je vais avoir des croyances, des intentions, des connaissances sur cette réalité. Et les autres vont avoir aussi des états mentaux, donc des croyances, des intentions, etc. sur cette réalité. Et ces états mentaux peuvent être différents des miens, en fait. Donc voilà, c'est une capacité qui nous permet d'expliquer le comportement des autres. Si je vois passer quelqu'un, par exemple, avec son parapluie, je peux croire que cette personne vient de récupérer son parapluie, elle l'avait oublié quelque part, ou alors je peux penser que cette personne a son parapluie parce qu'elle croit qu'il va pleuvoir aujourd'hui, des choses comme ça. Mais ça intervient aussi dans la communication avec les autres, ça nous permet de comprendre ce que disent les autres.
C'est donc un rôle absolument fondamental dans les interactions sociales.
Voilà, oui.
C'est très très important. Alors, la construction du sens, vous avez dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire d'une manière précise ? Parce que chacun va comprendre quelque chose et je suis sûr que personne ne va comprendre la même chose, la construction du sens.
Donc les gens vont avoir des croyances différentes sur, sur cette expression. Donc, par construction du sens, donc en l'occurrence dans la phrase que vous avez citée, il s'agit de la signification. Donc, quand je discute avec quelqu'un, puis Grice, qui est un philosophe du langage, il y a les mots qu'on prononce, d'accord. Donc, ça va être ce qu'on appelle le sens ou la signification des phrases qu'on dit. Et puis, le sens de la personne qui parle, en fait, ce qu'elle veut dire, d'accord. Et il n'y a pas forcément une adéquation parfaite entre ça. C'est-à-dire qu'on peut dire une chose et vouloir expliquer ou signifier autre chose. D'accord. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait de l'humour ou... Quand on est ironique, en fait, on va dire le contraire de ce qu'on veut dire. Si il pleut, bon, il pleut jamais ici, mais admettons qu'il pleuve, et que je dise quel temps magnifique, le sens de ma phrase, la signification de la phrase dit il fait très beau, mais moi, ce que je veux signifier, si je suis ironique, c'est le temps est vraiment très moche aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ce décalage qui nous intéresse. Donc quand on parle de construction du sens, c'est aller au-delà de la signification du sens des mots dans la conversation, et c'est la construction de la signification entre les deux interlocuteurs, entre celui qui parle et celui qui écoute, en fait.
Sachant que cette signification peut être différente pour chacun des deux.
Alors l'idée, en fait, oui, mais l'idée quand on discute avec quelqu'un, quand même, c'est de parler de la même chose, d'accord, et de comprendre la même chose, en fait. Donc il y a des auteurs comme Herbert Clark, par exemple, qui dit que cette construction du sens, elle se fait à deux. D'accord, et que je vais dire des choses et je vais attendre un retour. On parle de feedback de votre part. Alors soit le oui que vous dites, ça veut dire que vous approuvez ce que vous dites, ou voilà. Et en faisant ça, en fait, on va construire ce qu'on appelle un savoir partagé ou un savoir commun, en fait, et qui permet de dire on parle de la même chose, en fait. D'accord. Je vous raconte une histoire. Alors moi. Je vous lance des espèces d'appels. Je vous demande si vous suivez bien ce que je dis, soit par l'intonation, soit en vous disant d'accord. Voilà. Donc, l'idée, c'est, mettons, si on discute d'une histoire ou d'un événement, va y avoir une espèce de construction conjointe ensemble par des allers-retours qui vont permettre de d'être sûr qu'on parle de la même chose, en fait.
Alors, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit, sauf si j'ai pas bien compris, hein, ça peut très bien arriver, qu'il y a deux attitudes pour le locuteur, soit qu'il considère seulement ce qu'il veut dire, soit qu'il attend un retour de l'autre. Alors, expliquez-nous ça.
Alors, oui, c'est pas exactement ça. Non, en fait,
je sais.
Il y a deux façons.
Oui.
Alors, c'est deux façons dans la recherche, en fait. Hein, du côté des chercheurs, quand on essaye de comprendre comment fonctionne la communication entre deux interlocuteurs, des chercheurs comme Herbert Clarke, dont j'ai parlé, qui pensent qu'effectivement, on attribue constamment des croyances et des connaissances à l'autre, et c'est ce qui fait qu'on construit ensemble la conversation, d'accord ? Donc c'est là qu'il y a un rôle de la théorie de l'esprit dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais dire certaines choses que parce que je sais que vous les savez, d'accord ? Ou je crois que vous les savez. Et puis il y a d'autres chercheurs comme Boas Kaysar, donc sont tous les deux des Américains, qui pensent par exemple que on n'a pas besoin de faire ce travail d'attribuer des connaissances ou des croyances à l'autre pour discuter avec lui. C'est-à-dire que du moment que on serait un peu ce qu'on appelle égocentrique, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que du moment que j'ai, en tant que locuteur, j'ai des connaissances ou des croyances sur un certain nombre de choses. Je pars du principe que vous les avez aussi, d'accord ? Et je ne vais pas réfléchir à est-ce que vous avez réellement ces connaissances ou pas. Je vais utiliser ma théorie de l'esprit que dans les cas où on va être dans des situations où il y a clairement un problème de compréhension, en fait. On n'est pas sur la même longueur d'onde, ou on ne s'est pas compris. Et là, je vais me dire, ah non, mais là, mon interlocuteur ne sait pas du tout de quoi je lui parle, donc je vais commencer à mettre en branle tous ces mécanismes qui permettent de comprendre si l'autre a les mêmes croyances et les mêmes connaissances que moi. Donc, c'est deux modèles théoriques, on va dire, hein, en psychologie ou en psycholinguistique, qui sont différents et qui sont des façons d'analyser la conversation, en fait. Alors, lequel est-ce qu'il y en a un qui est plus vrai que l'autre ? Pour l'instant, on n'a pas de réponse
peut-être
à ça.
Peut-être qu'il y a un modèle qui s'adapte mieux à certaines personnes et pas à d'autres, peut-être aussi, non ? Ou alors c'est indépendamment ?
Oui, non, c'est indépendamment.
Ah,
ça dépend un peu des expériences qu'on réalise et des résultats qu'on trouve, en fait. Hein. Alors, moi, je développe mes travaux plus dans le cadre d'un modèle, donc celui de Clarke, mais ça veut pas pour autant dire que l'autre est moins bien ou est faux, en fait. Hein, d'accord ? C'est un mouvement de recherche qui est encore en plein développement, en fait. Hein.
J'ai lu dans le papier que vous nous aviez envoyé pour la préparation de ce séminaire quelques questions. Et ces questions, je vais vous les poser, elles ne sont pas de moi. Est-ce que la théorie de l'esprit contraint la construction du sens et pourquoi ? Si elle la contraint, bien sûr.
D'accord, donc ça c'est relatif à ce que je vous disais sur le modèle d'Herbert Clarke, c'est-à-dire que si on a besoin nécessairement d'attribuer des états mentaux et des connaissances à notre interlocuteur, donc dans ce cas-là, ça veut dire que la théorie de l'esprit contraint la construction du sens.
Ah, d'accord.
Ça devient nécessaire, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que si on le fait pas, on peut pas construire le sens ou on peut pas discuter ensemble d'un même sujet, en fait.
Est-ce que les locuteurs prennent, ah ben ça vous m'avez répondu déjà, est-ce que le locuteur prenne la perspective de leurs auditeurs pour expliquer ou comprendre le sens ? Ça vous nous avez expliqué. Et je crois que vous m'aviez donné lors de notre préparation un exemple, c'est le monsieur qui vient et qui dit « je viens pour la réunion ».
Oui, voilà. Donc,
alors dites-nous ça.
Ça peut nous arriver, voilà, quand on est sur, par exemple, notre lieu de travail, une personne arrive qu'on n'a jamais rencontrée et qui nous dit « où est la réunion ?» Donc, dans ce cas-là, cette personne-là, elle part du principe que moi, je sais aussi où est cette fameuse réunion, alors que non, pas du tout. Et si cette personne me dit où est la réunion sans me donner plus d'informations que ça, donc elle m'attribue des connaissances que je n'ai pas, et je ne peux pas lui répondre, en fait. Je vais lui dire de quelle réunion il s'agit, avec qui, etc. Donc, dans ce type de cas, on voit bien que... si cette personne qui nous demande où est la réunion, elle ne nous attribue pas de connaissances, ou alors elle nous attribue des fausses connaissances, elle part du principe que si elle, elle sait de quelle réunion elle parle, je vais savoir, ça ne fonctionne pas. Là, il y a on pourrait dire un bris dans la communication, en fait.
Bien. Quel est le rôle du langage dans la construction du sens ?
C'est le langage qui permet la construction.
Mais est-ce que le langage joue un rôle dans cette capacité à attribuer des connaissances aux autres ?
Alors, oui, en fait. C'est l'objectif de mes travaux, en fait. On va dire des marqueurs linguistiques, pour employer une expression un peu pompeuse, de cette attribution d'états mentaux. Alors, par exemple, on sait que si, quand on raconte une histoire à quelqu'un, si la personne ne sait pas de quoi on parle, on va utiliser des articles indéfinis, donc comme une, pour faire référence à des informations dont on sait que notre interlocuteur ne les connaît pas. Et à partir du moment où on a déjà construit une connaissance partagée avec notre interlocuteur sur cette histoire, on va changer, on va utiliser des articles définis, comme le, la, les. Donc par exemple, si je vous raconte une histoire...
L'histoire de la voiture.
Voilà, ce matin, en venant travailler sur la route, il y avait un accident. Puis il y avait une voiture rouge qui était rentrée dans un arbre et une voiture verte qui était toute cabossée. Il y a un monsieur qui est sorti de la voiture rouge, donc il était barbu, et une dame qui est sortie de la voiture verte. Donc voilà, je mets en place l'histoire. Et pour faire référence aux éléments de cette histoire, je vais utiliser des articles indéfinis. Je vous ai dit une voiture, un monsieur. Puis en continuant mon histoire, je sais maintenant... que vous savez à quoi je fais référence, donc je vais vous dire le monsieur avec la barbe, il était complètement perdu, il savait plus quoi faire, et puis la dame, elle a pris son téléphone et a appelé les secours, etc. Donc j'ai changé, je vous ai dit le monsieur, la dame. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps. Et dans une expérience, une sorte de jeu collaboratif, en utilisant donc ces marqueurs-là, en demandant à des patients ou des gens qui sont atteints d'une schizophrénie, donc qui ont un problème pour attribuer des états mentaux aux autres, donc des croyances, des connaissances aux autres, donc qui ont des difficultés concernant la théorie de l'esprit. Donc on a fait jouer ces personnes-là avec un expérimentateur pour... alors je vais peut-être pas expliquer le jeu collaboratif, c'est assez difficile à expliquer sans repère visuel. Donc l'idée c'est qu'on leur a fait raconter, on va dire, une espèce d'histoire par rapport à des images, et on a enregistrer leur histoire, hein, et l'évolution de l'utilisation de ces articles, en fait. Dire, est-ce que ils utilisaient des articles indéfinis au début, quand j'expliquais les éléments à leur interlocuteur, hein, et puis ensuite ils changeaient par des articles définis. Et on s'est aperçu que quand on réalise ce jeu collaboratif avec des gens qui n'ont pas de schizophrénie et qui n'ont pas de problème de théorie de l'esprit, ils vont faire ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des articles indéfinis au début. Départ, ils vont dire un, une, et ensuite, ils vont changer vers des articles définis, donc montrant qu'ils attribuent à leur interlocuteur des nouvelles connaissances ou des nouvelles croyances, alors que les schizophrènes qui ont un problème de théorie de l'esprit, eux, vont continuer à utiliser des articles indéfinis tout au long du jeu collaboratif sans changer vers des articles indéfinis. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à ne pas attribuer de connaissances à leur interlocuteur alors qu'ils leur ont déjà expliqué les éléments de l'histoire. Donc cette utilisation, on va dire, et ce changement dans l'utilisation des articles indéfinis et définis, ben nous on utilise ça comme marqueur langagier, parce que ça relève du langage, pour dire si les gens ont une théorie de l'esprit qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, en fait. Voilà.
Ben, ça paraît anodin de dire le ou
ben oui, on s'en rend pas compte.
Mais c'est vraiment très important, c'est très significatif.
C'est tout à fait inconscient, on s'en rend pas compte, c'est tout à fait inconscient, mais voilà, ça reflète cette attribution de connaissances.
Et c'est donc une technique qui est utilisée pour voir le problème chez des schizophrènes.
Alors voilà, nous, on développe ces travaux, moi je développe avec mon équipe ces travaux, donc on a montré ça en 2009, ce qui est relativement récent. Donc c'est une idée qu'on continue à creuser, et qu'on a continué à utiliser avec une de mes thésardes, en fait, qui a soutenu sa thèse, Noémie Moreau, chez d'autres personnes avec une maladie d'Alzheimer, en fait. Et on a reproduit effectivement ces résultats-là.
Alors, une autre question. Tout à l'heure, je vous ai demandé quel est le rôle du langage. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que la prosodie transmet des informations justement à ce niveau-là. Peut-être que la prosodie, faudrait dire quelques mots pour nos auditeurs. C'est quoi la prosodie?
Alors, de façon simple, on pourrait dire que c'est l'intonation de la voix. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je suis pas prosodiste.
D'accord. Mais on a compris, c'est
donc l'intonation. Donc une définition très générale, c'est l'intonation ou la mélodie de la voix. Donc effectivement, là, c'est des travaux qui sont tout récents, qui datent de qu'on a commencé à mettre en place en 2014 avec Amandine Michelas, qui est chercheuse.
Ah, c'est vraiment très récent.
Oui, qui est prosodiste ici.
Ah oui.
Donc on cherche à montrer. Donc là, c'est pas encore. On a fait une première étude avec des résultats encourageants, mais on continue à travailler là-dessus pour être sûr avant de dire effectivement.
Vous pouvez la méthode.
La prosodie peut être un marqueur en fait. De l'attribution de connaissances à l'autre aussi. Mais l'idée, c'est que quand on met en focus une information, c'est-à-dire qu'on veut rendre saillante une information, donc par exemple, si je vous parle de Pierre et Paul qui sont venus au restaurant, et je vous dis Paul a pris un dessert. Je vous dis Pierre et Paul sont venus au restaurant, on a mangé ceci, etc. Je vais vous dire Paul a pris un dessert. Donc, pour accentuer l'information et vous dire que c'est Paul plutôt que Pierre qui a pris un dessert, donc c'est ce qu'on appelle le marquage du focus, je vais mettre une intonation particulière en fait. Donc, avec Amandine Michelas, on s'est demandé si ce marquage du focus, en fait, il relevait de l'attribution de connaissances à l'autre. Donc, pareil, on a fait une étude avec encore un jeu collaboratif. On utilise beaucoup ça parce que c'est assez écologique et c'est plus amusant, on va dire, pour à tester avec des gens qui ont une maladie, en fait. Donc toujours pareil avec des gens qui sont atteints d'une schizophrénie et qui ont un problème de théorie de l'esprit. On a montré, donc l'idée c'était de se déplacer sur une carte entre différents objets en fait, et d'indiquer ce que devait faire le participant donc avec une schizophrénie, c'était indiquer à un expérimentateur le chemin à parcourir, entre quel et quel objet il devait passer. Voilà. Et on enregistrait sa description. Et on a fait des analyses acoustiques. Et on a montré que, effectivement, alors que des sujets qui n'ont pas de schizophrénie vont d'utiliser une intonation particulière pour indiquer le passage à certains endroits, attirer l'attention de l'interlocuteur sur certains endroits pour les mettre en focus, en saillance, oui, oui. En fait, les rendre plus évidents pour l'interlocuteur. Donc les participants sans schizophrénie vont utiliser une intonation particulière. Les schizophrènes vont pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que cette intonation, ce marquage du focus, ils vont l'utiliser de façon complètement aléatoire,
sans signification, alors voilà. Sans intention.
Sans intention, c'est voilà. Exactement ça. Sans intention, sans avoir l'intention de dire attention, c'est parce que là, il y a une ambiguïté, c'est cette information-là qui est pertinente. D'accord ? Donc, eux ne vont pas faire ça. Donc, ça, c'est un premier résultat, mais qu'on doit encore approfondir, raffiner. Donc, on continue à développer des expériences pour être sûr qu'il y a bien un lien, en fait, entre cette capacité de théorie de l'esprit, d'attribution de connaissances à l'interlocuteur, oui, et ce marquage du focus, donc cette intonation particulière qu'on va utiliser pour attirer l'attention de l'interlocuteur.
Est-ce que l'empathie joue un rôle dans la théorie de l'esprit ? Alors peut-être qu'on dit deux mots sur l'empathie.
Oui, alors ces deux mécanismes, ces deux mots qu'on peut souvent associer, mais il y a quand même des mécanismes qui sont un peu différents en fait. C'est-à-dire que dans la théorie de l'esprit, on va dire, ça dépend des écoles hein, toujours, on va dire qu'on attribue des états mentaux dits cognitifs, d'accord ? Donc des intentions, des croyances, des souhaits, des désirs, des connaissances, alors que dans l'empathie, on peut dire qu'on attribue des états mentaux affectifs, d'accord, donc des émotions,
oui,
de la tristesse, de la joie, etc. En revanche, dans l'empathie, il y a, on pourrait dire, un mécanisme supplémentaire qui est le ressenti, en fait. Je pense qu'on en a. C'est-à-dire que regarder un film, oui, je pense que c'est, on peut regarder un film ensemble et tous les deux attribuer au personnage une émotion triste, par exemple, dire que, oui, le personnage est triste, oui, mais pas forcément ressentir cette émotion de la même façon. C'est-à-dire que à l'extrême, hein, moi, ça pourrait me faire pleurer, par exemple, de voir quelqu'un pleurer et pas vous, mais, ou l'inverse. Oui. D'accord. Donc, il y a l'idée de reconnaître cette émotion chez l'autre et de la ressentir en plus. Mais vraiment, du côté de l'empathie, on est du côté de l'affectif, en fait, donc des émotions, alors que du côté de la théorie de l'esprit, on est du côté du ce qu'on appellerait du cognitif, en fait.
C'est ça,
les intentions, les croyances, les connaissances, en fait.
Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci mille fois pour toutes les informations. Et puis peut-être à une autre fois.
Oui, merci à vous pour cette émission. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.